Maintenant, nous voulons ouvrir la parole de Dieu et nous avons commencé dimanche dernier à l'ouvrir dans la première lettre que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Nous avons vu là une église qui a été créée dans une métropole grecque et qui fait son chemin malgré les difficultés et malgré que l'apôtre et toute cette équipe d'évangélisation devaient quitter la ville pour d'autres horizons. Donc, aujourd'hui, le thème est avoir un cœur de berger. Qu'est-ce qu'est le cœur d'un berger? Ou, pour utiliser un autre mot, le cœur d'un pasteur. Donc, écoutez bien, c'est le pasteur qui vous parle. Ouais, c'est dangereux de choisir ces thèmes-là, parce que ça peut bien retomber à celui qui prêche. Mais il est question aussi d'être et de devenir père et mère spirituels pour d'autres. Et vous allez voir, ça ne va pas simplement concerner le pasteur. Le texte se trouve dans quelques extraits du chapitre 2. Et pour nos amis qui viennent pour la première fois ou depuis quelques fois, vous avez le texte sur le mur, et nous allons partager le texte avec des lectures à haute voix. Quelqu'un qui veut se lève et va lire. Il y en a en total 4. Donc, qui va se lever pour nous faire la lecture à haute voix de ce deuxième chapitre aux Thessaloniciens?
Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui éprouve notre cœur.
Jamais, en effet, nous avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour nos vies. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend à prendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans votre vie, affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers.
Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes encore portés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu et vous appeler à son royaume et à sa gloire.
En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.
Merci. Donc, dans ce deuxième chapitre, l'apôtre Paul, avant d'avoir, dans son premier chapitre, décrit le comportement, l'attitude par lesquelles les gens de la Thessalonique ont reçu l'évangile. Maintenant, il va parler de lui et de son équipe et ses motivations. Le verset 1 et 2 parle comment il a fait son entrée en tant qu'apôtre dans cette ville. L'apôtre Paul rappelle des nombreuses bénédictions dont Dieu avait accompagner la prédication de l'évangile. Et rappelez-vous, Silas et Timothée ont prêché de sorte que les gens étaient tellement étonnés, ils vont dire, vous allez bousculer la terre entière. Et nous avons vu aussi la puissance qui est dans le cœur même de l'évangile. Après avoir été outragé dans la ville de Philippe, dans les livres des Actes, chapitre 16, vous y trouvez cette histoire, l'apôtre Paul n'était pas venu à Thessalonique pour y trouver refuge, un calme, pour se reposer après les peines subies à Thessalonique, mais il est venu dans cette ville pour la gagner à l'évangile. Ce qui m'a impressionné dans l'apôtre Paul, c'est quand il reçoit une dose pénible et il doit souffrir à cause de sa foi, il ne commence pas à se replier et se plaindre sur lui-même. Il prend courage en disant, voilà, si un lieu ne va pas m'accueillir, je vais aller dans un autre. Et je vais le faire avec cette même fougue que Dieu me donne, cette même puissance dans le Saint-Esprit. Combien de temps nous nous laissons abattre parce qu'on est passé dans un temps difficile, on lèche ses blessures, on est disponible pour personne. Prenons courage et exemple de ce que fait dans sa motivation l'apôtre Paul et dit, voilà, pour l'évangile, il faut se battre. Et pour l'évangile, on va se lever de nouveau. Et c'est dans la force du Christ que je me relève toujours de nouveau parce que j'ai un message que tout le monde doit attendre. L'équipe pastorale parlait donc sans se lasser, sachant que rien pouvait les empêcher d'annoncer publiquement la parole de Dieu. Et j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu. Les croyants qui demeurent dans le secret, parce qu'il est ici question d'annoncer la parole de Dieu en public, les croyants qui demeurent dans le secret n'amènent personne à Christ. Les gens qui restent dans le secret emmènent personne à Christ. Sachant que nous vivons dans un pays où toute forme de religiosité est finalement enfermée dans un cadre privé. N'en parlez pas sur les places publiques. Ne faites pas de propagande, de prosélytisme. Les amis, si on fait ça, réduire notre foi et notre témoignage enfermés dans nos quatre murs, de peur que d'autres l'entendent, mais nous allons emmener personne à Jésus. La force et l'attractivité d'une église résident dans cette capacité d'avoir un témoignage propre et de ne pas avoir peur de le partager. Mais là où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, l'annonce de l'évangile est toujours, et toujours, vous pouvez compter sur cela, toujours, est toujours accompagnée d'opposition. Et si cette opposition commence dans ta propre famille, peut-être dans ton couple même, ou dans ton entreprise, ou dans ton voisinage, ou parmi tes amis. Là où l'évangile est annoncé, l'évangile est toujours accompagné d'opposition et, si ça se grave, aussi des combats spirituels. Verset 2. La stratégie des adversaires est de détruire la confiance que les croyants ont en Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. C'est le but. Mettre en doute et détruire. Faire douter. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous allez mourir quand vous croquez dans cette fruit? Vous vous rappelez? Ça commence avec une doute. Détruire la confiance que l'Église a en Dieu. Les adversaires de l'Évangile s'opposent ici au ministère même de l'apôtre en cassant du sucre sur son dos. Bon, ça c'est quelque chose d'assez commun. Ce ne sont pas simplement les adversaires. Peut-être vous le faites vous aussi de temps à autre. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Il s'attaque d'abord au caractère même de l'apôtre Paul. Ils mettent en doute sa sincérité, son intégrité et son autorité pastorale. Il semble être une règle assez universelle, me semble-t-il, que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, il peut être certain d'être critiqué par ceux qui en sont jaloux. Alors, l'apôtre Paul a été obligé, et ça c'est le contenu de ce deuxième chapitre, il est obligé à se défendre et de répondre à ses accusateurs. Commençons par la calomnie principale. Un ministère au motif impur. Pour quelle raison il fait ça finalement? Qu'est-ce que sont les vraies motivations de cet évangéliste, de cet apôtre? De quoi l'apôtre Paul était accusé? Que ses motifs n'étaient pas purs, qu'il était rusé, donc malin. Il était tellement malin, il cherche à gagner des personnes à Jésus par la séduction, par la flatterie. Et en plus, pour en ajouter, il était animé par la cupidité. Il aime de l'argent. Il fait ça que pour du fric. Quelqu'un m'a posé la question, monsieur le pasteur, mais pourquoi vous invitez les personnes à venir dans votre église? Donc j'ai répondu, c'est à cause de leur fric. Je suis intéressé à leur porte-monnaie. Il a piégé lui-même que je me moquais de lui. La motivation ne doit jamais être celle de la cupidité, l'amour de l'argent, verset 3. Nous y revenons encore. La dénonciation calomnieuse est une forme de persécution difficile à supporter. Les bruits qui courent, les mauvaises paroles, ce qu'on dit dans ton dos, difficile à supporter. Et vous savez vous-même, peut-être par propre expérience, que la calomnie a bien détruit des bonnes réputations. Dire des mauvaises choses qui ne sont pas vraies pour détruire une bonne réputation. L'homme semble être si friand de mauvaises nouvelles et si prompt à retenir tout ce qui peut nuire à quelqu'un. Ce qui peut nuire à quelqu'un. On lui rapproche ses motifs impurs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va répondre? Il va répondre en disant, j'ai pas de motifs impurs parce que je voudrais vivre une sainteté personnelle. Et mauvaise motive et sainteté personnelle, ça va pas de pair. L'apôtre Paul enseigne que la parole de Dieu conduit toujours dans la sainteté. C'est le but. Alors que beaucoup de religions païennes à l'époque de l'apôtre Paul ont associé souvent des actes sexuels ou d'autres manières de vivre le culte aux idoles. L'évangile de Jésus, lui, est plutôt consacré par sa pureté de ses valeurs. Pureté de ses valeurs. Il s'adresse l'évangile à l'être entière, au corps, à l'âme et à l'esprit. Il ne fait jamais appel au bas instant d'un homme. La parole de Dieu nous montre le véritable caractère du ministère chrétien. Voilà ce que dit l'apôtre Paul quand il écrit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, le verset, chapitre 1, verset 12. Que la conduite d'un serviteur de Dieu soit pure et que sa propre conscience ne le condamne pas. Conduite pure et une conscience tranquille. Un serviteur de Dieu doit être connu par une qualité générale. Il faut qu'il soit irréprochable. Donc ça, c'est le grand malheur de cette église. Parce que je ne le suis pas. D'ailleurs, vous pouvez mettre n'importe qui ici, il ne le serait pas. C'est écrit en 1 Timothée chapitre 3, verset 2, sur les qualités des pasteurs ou responsables d'église. Qu'ils soient irréprochables. Est-ce qu'il y a des personnes qui, contrairement à moi, sont irréprochables dans cette salle? Avec toute modestie, levez le bras. Qu'est-ce que ça voudrait dire être irréprochable? Sa conduite doit être telle qu'elle ne permet à personne de compromettre sa réputation. Ne pas permettre à personne de compromettre la réputation du serviteur de Dieu. Irréprochable ne veut pas dire être parfait, sinon personne serait serviteur de Dieu. Mais être caractérisé par ses qualités à la fois humaines et spirituelles. Et là, je me reconnais déjà un peu plus. En tout cas, j'aspire à des qualités humaines et à des qualités spirituelles. D'avoir et de vivre ces qualités humaines et spirituelles, c'est comme un bon parfum qui se dégage de la vie d'une personne qui marche d'une manière droite avec Jésus. Je me rappelle un moment où on a gardé notre petit-fils André, et c'était dans un moment où son nez coulait sans arrêt, rhume. Donc, je pris mon mouchoir et on a aidé à avoir le nez un peu plus libre. Et vous savez ce qu'il dit ? Oh, ça sent bon, c'est mamie Imke. Vous savez pour quelle raison ? Il pense à mamie Imke ? Parce que chaque fois que je prends un mouchoir, je prends de son parfum que je lui offre et je mets une petite dose dedans. Qu'est-ce que j'aime ça. Oh, presque regrettable que je n'ai pas davantage rhume. Mon petit-fils a tout de suite reconnu de qui était ce parfum. Est-ce que tu dégages toi aussi une odeur positive, agréable, de sainteté, de pureté, de droiture, tout simplement d'être chrétien? Personne dit, mais qu'est-ce qui pue les chrétiens ? Immoralité, méchanceté, malhonnêteté. Moi, je voudrais être connu de sentir bon. Les gens trouvent ça agréable. Qu'est-ce que j'aime finalement depuis que je suis en France de faire la bise ? Même 4 fois, comme dans la Nièvre. Surtout chez les femmes. Vous savez pourquoi ? J'ai l'impression que les femmes sont mieux que les hommes. Un bon parfum plaît, les amis. Rend agréable. Est attirant. Et ton parfum à toi ? Et ton parfum à toi ? L'apôtre Paul continue en disant, dans la façon d'annoncer l'évangile, j'utilise aucune méthode manipulatrice. Oh, les manipulations. Oh, on peut bien manipuler un public ou une personne. Il y a plein de moyens de le faire. Un des moyens pour manipuler une personne, c'est de la séduire, la séduction. Ou un autre moyen, c'est la flatterie. C'est louer excessivement ou faussement une personne pour attirer ses faveurs. Mais qu'est-ce que vous êtes gentil? Ah, vous devez être certainement une personne très, très bien. Qu'est-ce que j'aime votre attitude. On connaît ça? En Allemagne, on dit on roule une personne autour du petit toit. La flatterie, la manipulation. On la séduit, on parle faussement des choses qui attirent ses serveurs. Ou... C'est satisfaire une personne dans son amour propre ou dans sa fierté. Oh, ça marche très très bien. Très très bien. Peut-être vous êtes vous-même sensible à ces choses, l'amour propre, la fierté. Non. Vous non plus. Bon, continuons. C'est aussi parler avec une fausse modestie de soi-même, le serviteur tout modeste. Pour gagner l'estime des personnes qui nous écoutent. Très modeste serait de dire, sans vouloir me flatter. Je ne voudrais pas me flatter, mais... Écoutez, si vous entendez des choses pareilles, c'est dangereux. Là, vous êtes dans la manipulation. Gagner des personnes en cherchant les séduire, leur flatter. L'apôtre Paul était plutôt connu pour le contraire. Et j'espère moi aussi. L'apôtre ne cherchait pas, il n'usait pas de complaisance pour plaire à son auditoire. Auditoire, désolé. mais en leur présentant l'évangile comme cette doctrine, elle est vraie. En Galates chapitre 1, verset 10, il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. » Ce n'est pas pour vous offrir un moment agréable. J'espère qu'il soit agréable. Mais ce n'est pas le but premier. Je voudrais que vos cœurs soient touchés. Je ne serais pas contre si vous étiez inquiet spirituellement. Parce que cette parole touche une corde sensible de votre vie. Et que le Saint-Esprit commence à travailler sur vos consciences. Je ne serais pas contre. Même si vous passez un moment désagréable. Parce que c'est jamais agréable d'être mis en question, d'être corrigé. Mais c'est le but de l'évangile. Ne continue pas à courir dans la mauvaise direction. T'arrête et change de vie, change de direction. Paul ne courait pas à des manipulations psychologiques pour faire des disciples. Ne cherchons donc pas à adopter nos paroles pour plaire aux auditeurs, pour chercher à leur plaire, jamais. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous gagner à la cause, de vous encourager, de vous interpeller et de vous mettre en confiance dans votre foi. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon ministère. De belles paroles ne font que bercer les âmes sans les mettre en présence de celui qui sonde, selon Jérémie chapitre 17, verset 10, qui sonde les cœurs et éprouve les reins, celui qui touche au plus profond de notre être. Oh oui, je prie pendant que je prêche à ce que le Saint-Esprit puisse ouvrir des portes qui vont directement dans votre cœur. Des portes qui s'ouvrent pour aller jusqu'au fond de vos consciences. L'apôtre Paul avait certainement flatté ses auditeurs pour mieux les attirer à lui. Et puis, il est accusé de ruse. Chez Paul, pas d'arrière-pensée. Il n'a pas cherché à tromper les Thessaloniciens pour les aveugler sur leurs vrais besoins spirituels. Il ne leur avait jamais caché leur condition de pécheur. En Allemagne, il y a une grande discussion qui se fait dans les églises parce qu'on ne parle plus du péché. On parle des qualités que Dieu voudrait mettre dans votre vie, comme dans un séminaire de motivation. Non, vous n'êtes pas mauvais. En tout cas, ce n'est pas votre premier problème. Regardez plus que ce que Dieu voudrait mettre de bonnes choses dans votre vie. Ah, ça change un peu la donne. Si tu évites à parler du problème principal, mais comment tu voudrais t'offrir pour recevoir les bénédictions de Dieu ? On ne parle plus du péché parce que ça culpabilise, dit l'Église en Allemagne. Ça culpabilise. Je dirais tant mieux ! Tant mieux, ta conscience se réveille en disant « Mince, quelle personne que je suis !» Tu te frappes la poitrine et dis « Mauvais que je suis, qui va me sauver ? Qui va me sauver ?» Il leur avait présenté l'Évangile afin de les amener au salut. Et avant d'arriver au salut, on va parler du problème. Tu passes par la croix. Tu te reconnais pécheur. Aussi mauvais que tu es, tu déposes tes péchés au pied de la croix et tu demandes humblement pardon. Et qu'est-ce qui va arriver ? Du haut de la croix va descendre le pardon. Pour ça, Jésus-Christ est mort. Et une fois tes péchés pardonnés, il y a de nouveau de la place dans notre vie. Afin que le Saint-Esprit puisse venir et remplir cette place devenue libre. Parce que le péché s'en va. Nos mauvais maîtres s'en vont. Il fait entrer le Dieu qui va transformer notre vie par son Saint-Esprit. Ça, c'est la marque d'un vrai prédicateur. J'ai pas à vous flatter. Mais je voudrais vous parler comment on peut changer de vie. Donc, aucune méthode manipulatrice. Et puis, il va continuer à dire, j'ai aucun intérêt personnel. Vous me dites que j'aime de l'argent, que la motivation même de ma prédication ici dans la ville, c'est de vider les poches, gentiment vider les poches de ceux qui vont croire. Sachez qu'au premier siècle de notre ère, donc au temps de l'apôtre Paul, des faux prophètes de tout poil et toute croyance confondue circulaient dans l'Empire romain et prophétaient de l'indifférence de Rome à leur égard. Tout est bon à croire. Rome ne s'est jamais mêlée dans les croyances des peuples qu'ils ont occupés. Jamais. C'était l'affaire de ces peuples. Et ces faux prophètes exploitaient la crédulité des personnes cherchant pouvoir, richesse et prestige. Et là, franchement, je dois avouer, je crois que je suis un peu sensible à ça. Peut-être pas vous, hein. Pouvoir, richesse, prestige, ça m'irait très bien, vous trouvez pas? Mauvaise motivation. Aujourd'hui, un courant bien connu dans le monde évangélique est dirigé uniquement vers les gains financiers. Et c'est l'évangile de la prospérité. Dieu voudrait que tu sois riche, elle la prêche. Mais vous savez pourquoi? Dieu voudrait vous rendre riche afin que vous me rendiez à votre pasteur votre argent, même si vous n'êtes pas riche. Que je vais faire multiplier sur le mont Sinaï ou je ne sais pas où. L'évangile de la prospérité ne fait qu'enrichir ceux qui le prêchent et le rendre encore plus riche. Et effectivement, il y a des églises qui poussent partout et qui ont comme seul intérêt, à travers de l'évangile, de vider vos poches. Donnez-moi votre argent et moi je vous apporte la bénédiction. Mais attends, qui suis-je de pouvoir apporter de la bénédiction contre l'argent? C'est pas possible. Donc l'apôtre Paul dit, mais quand je suis venu vers vous, j'ai travaillé jour et nuit pour être à charge à aucun de vous, verset 9. L'apôtre Paul prêchait l'évangile même gratuitement. Pour moi, en tant que missionnaire que je suis, c'est aussi une valeur capitale. Que je puisse être à votre service gratuitement. Bien que la parole de Dieu exhorte les chrétiens à subvenir aux besoins matériels des serviteurs de Dieu. Chaque ouvrier mérite son salaire, dit même Jésus, Luc 10, verset 7. Et l'apôtre Paul dit, les anciens qui dirigent bien l'église méritent un double salaire. Oh, ça m'irait aussi bien, je trouve. Un double salaire, je vais parler avec ma mission. Surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. Donc je vous dis tout de suite que le mot salaire en grec laisse sous-entendre que c'est un double honneur. C'est pas simplement du fric. Mais vous avez remarqué, l'amour de l'argent ne peut jamais être une bonne motivation pour prêcher l'évangile. Et vous savez pourquoi? On ne marchande pas avec l'évangile. L'évangile te rend riche, mais pas en forme de fric, en forme de bénédiction. Et je vous souhaite que vous allez crouler sous le poids des bénédictions que Dieu vous envoie. Dans la Bible, la cupidité est même une forme d'idolâtrie. Il est impossible, dit Jésus, de servir deux maîtres, Dieu et de l'argent, car le Seigneur ne supporte aucun rival, Matthieu 6, 24. Est-ce que l'apôtre Paul prêche l'évangile? Parce qu'il cherche la gloire qui vient des hommes. Contrairement aux prédicateurs religieux, l'équipe apostolique ne cherchait pas les accolades, les révérences, les récompenses ou le prestige. L'apôtre Paul était tout à fait conscient que c'est Dieu qui l'avait choisi et préparé et ordonné à son ministère. Donc on n'a pas à recevoir la gloire de la part des hommes, parce qu'on ne peut que recevoir la gloire de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous juge. S'il voudrait nous glorifier et nous bénir, c'est son affaire, mais ce n'est pas le vôtre. En conséquence, l'apôtre Paul ne méritait pas la louange des hommes. Dans un autre épître, il écrit « Je n'ai pas à m'enguir de ce que je lance, pardon, je n'ai pas à m'enguir, mon orgueil, merci que vous êtes avec moi. » Non, je constate que vous êtes bien spirituel et biblique. Si quelqu'un parle en langue pas correcte, qu'il soit interprété. Oui, c'est bien. De ce que j'annonce, la bonne nouvelle, c'est pour moi une obligation qui m'est imposée. Puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 16. Et 17. Donc la seule ambition de l'apôtre Paul, et d'ailleurs aussi la mienne, la seule ambition que j'ai en tant que serviteur de Dieu, c'est que le Seigneur soit glorifié. Dites-moi ce que vous voulez, mais que la gloire revienne au Seigneur. C'est la seule motivation. Il n'y a pas d'autre adresse à faire. Que le Seigneur soit glorifié. Donc la mise en valeur de soi-même doit être exclu de tout motif personnel d'un serviteur consacré à Christ. La recherche de l'honneur de la part des hommes est d'ailleurs un véritable danger qui fera tomber de nombreux, qui a fait tomber déjà, de nombreux serviteurs de Dieu. Voilà les trois dangers par lesquels Satan guette à faire tomber les serviteurs de Dieu. Premièrement, il veut que les serviteurs de Dieu deviennent orgueilleux. L'orgueil. Puis, il commence à les faire être attirés par de l'argent. L'argent. Deuxième piège. Et comme troisième, que les serviteurs de Dieu soient attirés par l'autre sexe. L'autre sexe. L'infidélité. Et croyez-moi, Sur une des trois, les pasteurs tombent. S'ils tombent, ils tombent sur une des trois. L'orgueil, l'argent ou l'infidélité. J'ai vu moi-même tomber un serviteur, d'ailleurs qui était mon tuteur, par l'orgueil. Il était tellement orgueilleux que le Seigneur l'a coupé court. Et j'ai vu deux autres serviteurs de Dieu tomber à cause des relations extra-conjugales. Et non pas seulement dans notre fédération, mais aussi ailleurs. Sur un de ces trois terrains, le diable attend, arme en main, les serviteurs de Dieu. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes sensibles à exactement ces trois choses. Souvenez-vous constamment des paroles du Seigneur. Quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé, dit Jésus en Luc chapitre 14, verset 11. Au verset 10, nous trouvons les trois caractères donc du ministère de l'apôtre. Sa conduite est sainte. Sa conduite, elle est juste. Sa conduite est irréprochable. Sainte, juste, irréprochable. C'est à quoi je tente ce que je voudrais être comme serviteur de Dieu. Et vous, vous aspirez à quoi? Aspirez vous-même d'avoir une conduite sainte. Aspirez vous-même d'avoir une conduite juste et aspirez d'avoir une conduite irréprochable. Et croyez-moi, le monde qui nous entoure fera la différence. Chaque chrétien au service du Seigneur doit s'appliquer à vivre selon cet enseignement afin de ne pas être l'objet des reproches. Je préfère que vous dégagez un bon parfum que vous soyez des chrétiens qui puent. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père et une mère. Verset 7 et verset 12. Sont pour ses enfants, vous exhortant, vous consultant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Les pères et les mères spirituelles qui ont donner leur propre vie à Dieu, ont toujours été appelés à transmettre à leurs enfants l'amour du Seigneur, comme ceux qui sont pères et mères parmi nous. Devenons de notre côté, chacun, marié ou pas, chacun de notre côté, père et mère spirituel pour d'autres. Aimer Dieu et transmettre cet amour. Un amour pour Dieu, un amour pour notre Sauveur, et Seigneur Jésus-Christ. Transmettre un amour pour le Saint-Esprit. Transmettre un amour pour la parole de Dieu. Voilà ce que font les pères et mères spirituelles qui consolent, qui encouragent, qui donnent ou redonnent force et courage à leurs enfants spirituels afin qu'ils marchent d'une manière digne selon Dieu, même au milieu, ou plutôt surtout, au milieu des difficultés que présente la vie. En conclusion, le ministère chrétien est avant tout la manifestation du caractère chrétien. Le ministère chrétien est avant tout la manifestation du caractère chrétien. Notre attitude a plus d'impact que nos actes ou nos paroles. Le comportement du serviteur de Dieu détermine finalement la qualité de son travail. Et à cela, je dois être jugé, entre autres par vous. Le serviteur de Dieu doit être au-dessus de tout reproche, afin que son ministère ne soit pas blâmé. Je voudrais terminer avec cette image qui me plaît beaucoup. Éprouver et approuver. Éprouver et approuver. Voilà le sceau que Dieu met sur un serviteur, sur une servante fidèle. Ayons à cœur nous-mêmes d'accomplir un tel service au sein de notre Église que nous formons tous ensemble. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole qui nous rappelle notre caractère que tu voudrais forger par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, nous voilà, nous voulons être disponibles, d'être préparés à un ministère spirituel, au sein de l'Église ou pour le monde entier, là où nous sommes. Seigneur, accorde-nous la faveur d'être reconnus pour les valeurs qui sont les nôtres, pour le caractère qui est le nôtre, afin qu'un bon parfum, ton parfum, se dégage dans le monde entier. Amen.